de suite au journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. C'est la quatrième journée de mobilisation nationale contre la réforme du Code du travail avec Force ouvrière officiellement en renfort pour la première fois depuis la rentrée. Les syndicats demandent au gouvernement de revoir sa politique libérale. Analyse du mouvement avec Annabelle Grelier, commentaire politique de Sophie Delpont. Selon l'un des proches de Saad Hariri, il devrait quitter Riyad dans les 48 heures pour la France. Le Premier ministre libanais pourrait ensuite rentrer à Beyrouth où le président Michel Aoun déclare l'attendre pour discuter de sa démission. Correspondance à Beyrouth d'Omar Waman. Le génocide rwandais, la justice française n'estime pas nécessaire d'entendre l'ancien chef d'état-major des armées dans l'enquête sur les possibles responsabilités de cette même armée française lors du génocide de 1994. Explication de Camille Magnard. Un sondage, Louis Harris, pour l'association L'Enfant Bleu, un Français sur quatre, déclare avoir été victime de maltraitance physique ou psychologique durant son enfance. Pour le secrétaire général de l'association, on assiste à une vraie libération de la parole, là aussi. Compte rendu de cette enquête avec Valentine Joubin. Pas de dernière partie de la grande table, donc, pour cause de mouvement social. En revanche, vous allez recevoir, après le journal, le médiateur de Radio France, Olivier Gesbert.
Oui, un rendez-vous du médiateur, un jeudi sur deux, exceptionnellement avancé à midi 54. Aujourd'hui, Bruno Donnès reçoit Vincent Lemaire, le directeur adjoint chargé en charge des programmes. Aujourd'hui, pour répondre à vos questions, et bien justement sur nos émissions, le traitement qui peut en être fait. Et puis, nous reviendrons sur les audiences médiamétrie qu'on a connues ce matin. Et l'occasion de vous dire, peut-être avec vous, Antoine, un grand merci à tous pour votre fidélité toujours grandissante. À tout de suite.
La mobilisation reste-t-elle l'outil le plus efficace de la contestation? C'est parce qu'ils en sont convaincus que plusieurs syndicats appellent aujourd'hui à une nouvelle journée de protestation. C'est donc la quatrième depuis le début de l'année. Quelques 170 manifestations au programme à l'appel de la CGT, de Force ouvrière, de Solidaire, de la FSU, mais aussi des organisations de jeunesse, l'UNEF, l'UNEL, la FIDEL, organisation qui espère se faire entendre de l'exécutif afin, disent-elles, qu'il revoie sa politique libérale qui vise à accroître les inégalités au profit d'une minorité. Tout se passe comme si la possibilité de faire reculer le gouvernement ponctuellement, en particulier sur cette fameuse loi travail, ne semblait plus un objectif réaliste. Et il serait donc nécessaire maintenant simplement d'entretenir le mouvement social de façon plus globale, avec des objectifs également globaux. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Antoine.
Alors comment est-ce qu'on peut caractériser cette journée un peu spéciale ?
Convergence des luttes et résistance, ce sont en fait les deux grands mots d'ordre finalement de cette manifestation. Indignez-vous, disent en somme les syndicats, la CGT en tête, mais aussi le mouvement du Front Social ou encore des associations comme le DAL ou ATTAC qui seront eux aussi dans la rue aujourd'hui. Au-delà des ordonnances de la loi travail, les manifestants s'insurgent contre la hausse de la CSG, la baisse des APL, la fin de certains contrats aidés, mais aussi les mesures d'économie dans la fonction publique. Et bien sûr, ils s'inquiètent de la future réforme de l'assurance chômage ou encore la formation professionnelle. Les raisons de la mobilisation s'élargissent au fil des semaines pour remettre en cause l'ensemble d'une politique considérée comme libérale et antisociale. Il faut dire que le mouvement, le gouvernement Macron met la pression, réformes et mesures s'enchaînent très rapidement et puis il n'y a guère de surprise pour les syndicats car finalement, Macron ne fait que dérouler son programme. Mais sous cette pression, le mouvement syndical n'a jamais été aussi fracturé. La CFDT et la CFE-CGC n'ont pas rejoint l'appel. Depuis plusieurs semaines, les organisations syndicales expriment leurs divergences sur la stratégie à employer pour s'opposer donc aux réformes à venir. Même parmi les syndicats qui appellent à la grève, les relations ne sont pas au beau fixe. Après quelques piques échangées par médias interposés, les leaders de la CGT et de Force ouvrière ont décidé de ne pas battre le pavé ensemble. Philippe Martinez sera à Paris, tandis que Jean-Claude Mailly sera à Marseille.
Annabelle Grelier, merci beaucoup. Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, affirme sur France Info ce matin que la mobilisation se construit comme la politique d'Emmanuel Macron. On l'écoute.
On sent une vague de contestation de la politique d'Emmanuel Macron qui va grandissante dans le pays. C'est vrai avec les mobilisations syndicales contre les ordonnances et d'autres mesures de déréglementation sociale, de perte d'emploi dans les services publics, mais on le voit aussi très fortement avec la mobilisation des maires, des collectivités locales contre les mesures d'austérité, de suppression des emplois aidés. On l'a vu.
Il vous semble qu'il y a un climat vraiment comme ça, très revendicatif?
Oui, parce que je pense que les gens...
Vous n'exagérez pas un petit peu?
Non, je crois que les gens ont compris une chose. Emmanuel Macron, c'est le Père Noël des riches. Un sondage récent, je crois, il y a deux jours, a dit que 60%, 5% des gens pensaient qu'ils allaient être les perdants de cette politique. Et malheureusement, ils ont raison. Donc il faut stopper cette politique. Il y a beaucoup de gens qui le comprennent. Et la mobilisation se construit. Je ne dis pas que c'est facile, mais elle se construit.
Pierre-Laurent avec Jean-Michel Apathy, voilà donc pour ce qu'il déclarait ce matin. Et parallèlement, eh bien, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, affirmait lui ne pas vouloir se laisser intimider, impressionner, intoxiquer par les commentateurs sur le président des riches. Il y a une cohérence, il faut garder cette cohérence, ne pas se laisser intimider donc par ces commentaires. Selon le président de l'Assemblée nationale, nous faisons en même temps une politique efficace pour l'économie et une politique solidaire. Donc ça nous amène au versant politique de cette actualité sociale. À l'instant, le chef de file de la France Insoumise estime que cette division syndicale est un peu affaiblie, enfin affaiblit le mouvement, que ça pâtit de la division syndicale. Il faut noter aussi qu'il y a des militants de la France Insoumise qui vont se joindre au mouvement, même si pour l'instant, M. Mélenchon a reconnu qu'Emmanuel Macron avait le point. Comme il l'a dit, le point pour l'instant. Le chef de file des Insoumis impute partiellement cet échec donc au syndicat. Objectif qui semble pourtant commun à la fois syndicat et France Insoumise malgré tout. Et cependant, des stratégies qui semblent vraiment diverger. Pour quelles raisons, Sophie Delbon ?
Alors, tout d'abord parce que cette séquence de contestation avait commencé avec de grands espoirs, notamment du côté de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon espérait que la protestation, ce front dispersé, prendrait la forme d'une série de vagues successives qui partiraient à l'assaut du mur macroniste et que la CGT notamment finirait par accepter un côte à côte dans ce front qui deviendrait commun, se prenant même à rêver d'un blocage du pays qui pousserait Emmanuel Macron dans l'impasse et irait jusqu'à remettre en cause l'exercice même de son mandat sur 5 ans. Et aujourd'hui, c'est un constat d'échec pour l'instant. La déferlante n'a pas eu lieu, même si la France Insoumise avait réussi sa mobilisation du 23 septembre dernier, en portant dans son sillage, on s'en souvient, presque toutes les forces de la gauche contestataire, avec le numéro 1 du PCF et Philippe Poutou et Olivier Besançon du NPA dans son cortège. Mais ce qui pêche, comme l'a reconnu Jean-Luc Mélenchon et comme le reconnaissent les cadres de la France Insoumise, c'est l'absence de mobilisation de la jeunesse, malgré les efforts répétés, malgré les meetings de députés dans les facs et les distributions de tracts devant les lycées et les universités. C'est un contexte de démobilisation générale, un ras-le-bol de la politique après de longues séquences électorales l'année dernière, analyse aujourd'hui les cadres de la France Insoumise qui ont été surpris par cet état d'esprit. Il s'amorce donc maintenant un tournant stratégique. On quitte le terrain du bras de fer entre la rue et le pouvoir, un temps espéré. L'idée est donc maintenant de déporter sur le terrain des prochaines élections, les élections européennes de 2019, ce bras de fer. Jean-Luc Mélenchon espère maintenant donc que ce nouveau vote qui aura lieu se transforme en un référendum, stop ou encore Macron.
Sophie Delpon, merci. Nous sommes toujours en compagnie de l'anthropologue Emmanuel Théré qui était invité de la première partie de la Grande Table pour évoquer l'œuvre de Françoise Héritier. Merci donc d'être resté aussi pour intervenir dans cette édition. Que dites-vous de ce moment politique, démocratique que nous vivons? Sophie Delpon parlait de démobilisation et en même temps, il y a un malaise qui s'exprime par rapport à la politique du gouvernement.
Mais pour essayer de prendre les choses d'un peu plus haut, il y a 5 ans, dans un livre qui s'appelait « Penser à droite », dans la conclusion de ce livre, j'avais indiqué qu'il y avait à l'intérieur du monde de la droite une sorte de tension entre, d'un côté, le conservatisme social et de l'autre, le libéralisme économique. Tout simplement parce que ces deux tendances se référaient à des valeurs complètement contradictoires les unes avec les autres. Le libéralisme économique, c'est la mobilité, c'est le changement, c'est l'innovation, c'est le cosmopolitisme, c'est le nomadisme, c'est la prise de risque, c'est le souci de la consommation, de l'hédonisme, enfin le privilège donné à la compétition. Bon, le conservatisme social, c'est tout le contraire. Stabilité, continuité, enracinement, patrie contre cosmopolitisme, sécurité, modération et consensus contre la compétition.
Donc c'est ça le nouveau clivage.
Alors, cette tension, elle a grandi, elle a monté. Et l'épisode Macron, c'est le triomphe des valeurs du libéralisme économique sur les valeurs du conservatisme social. Pour moi, c'est une chose qui est tout à fait claire. Est-ce que ce triomphe sera durable? Le succès de l'entreprise de Laurent Wauquiez nous le dira. Et s'il arrive à ses fins, le conservatisme social reprendra du poil de la bête, disons. Alors du côté de la gauche...
Oui, parce que j'allais dire, c'est ça, le nouveau clivage, c'est droite conservatrice contre droite libérale, on se demande où est la gauche.
Mais, à mon sens, la gauche vit encore sous le coup de ce désastre historique qu'a été l'effondrement de l'espérance communiste. Il y a 30 ans de cela, et pourtant, l'impact de cet effondrement se fait toujours sentir, en ce sens que des millions de personnes, en France et en Europe, et dans le monde, avaient adhéré à cette espérance communiste. Et l'effondrement calamiteux de cette espérance communiste a démontré à ces gens qui y avaient adhéré que le monde était comme cela, qu'il n'était pas possible de le transformer, qu'il fallait s'y aménager son jardin, se débrouiller pour vivre avec, mais de toute façon, les hypothèses de la transformation étaient vaines. Et nous vivons toujours sous le coup de cette désillusion. À ce moment-là, on comprend le scepticisme.
Ouais, c'est sûr que si le monde n'est plus à transformer, on ne voit pas comment les forces de transformation pourraient avoir une place.
Absolument.
C'est un changement presque anthropologique, finalement.
Les efforts d'aménagement qui étaient caractéristiques de l'entreprise social-démocrate sont rendus inefficaces et vains par ce qu'est la mondialisation capitaliste aujourd'hui, puisque aucun État aujourd'hui ne peut avoir de politique autonome en matière d'impôts, en matière de salaires, en matière de revenus. Tout ça est soumis aux règles du marché.
Pour continuer de garder de la hauteur, comme vous disiez, en tant qu'anthropologue, moi j'ai l'impression qu'on pourrait se demander s'il n'y a pas un changement anthropologique d'un homme qui vivrait le monde, sa représentation sur un mode de la transformation ou au contraire sur un mode de l'adaptation. Est-ce qu'on ne change pas de monde, c'est ça. Est-ce que c'est pas ça le changement de monde à lequel on assiste?
C'est un changement de monde. Ça n'est pas nécessairement un changement de monde définitif. Bon, c'est de vieille sagesse populaire que de dire que qui sème le vent récolte la tempête et qui sème la justice récolte la colère. Et
vous croyez qu'il y a une loi immanente qui va faire revenir le conflit politique?
Un jour, l'espérance renaîtra. Bon, sous une forme qu'il est bien difficile de prévoir aujourd'hui. Mais pour le moment, il faut dire que nous sommes un peu au creux de la vague. Mais je me souviens de discussions que j'avais avec François Furet, qui défendait l'idée que la notion de révolution était à renvoyer au magasin des accessoires. Et je lui disais, tu te trompes, nous sommes en 1816, mais après 1816, il y a 1830, il y a 1848, il y a 1871. Alors je pense que nous sommes dans une nouvelle mouture de 1816, mais qu'après viendront d'autres épisodes.
Emmanuel Terray, merci beaucoup d'être resté avec nous pour la suite de cette édition. J'ajoute sur le plan économique que l'INSEE indique ce matin que le taux de chômage calculé selon les normes du BIT a progressé de 2 points au troisième trimestre, donc en France métropolitaine s'établissant à 9,4%.
France Culture, midi 45, la suite de votre journal, Antoine Mercier. Le Premier ministre libanais Saad Hariri devrait quitter Riyad dans les 48 heures pour la France. Il pourrait revenir ensuite au Liban à une date encore non déterminée. C'est ce qu'affirme en tout cas l'un de ses proches à une chaîne de télévision libanaise.
Et pendant ce temps à Beyrouth, le président Michel Aoun déclare attendre le retour de Saad Hariri de Paris pour une discussion sur sa démission notamment. La France, en tout cas, ça c'est clair, cherche une issue à la crise. Jean-Yves Le Drian annonce lui-même depuis Riyad que M. Hariri va se rendre en France après avoir accepté une invitation du président Macron. On est en ligne avec Omar Waman. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Monsieur Hariri, attendu donc à Paris dans les jours ou les heures qui viennent, c'est manifestement le résultat de cette tractation franco-saoudienne.
Oui, Emmanuel Macron s'est entretenu à plusieurs reprises avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, qu'on appelle MBS, qu'il a d'ailleurs longuement rencontré la semaine dernière à Riyad. Ils sont tombés d'accord sur le principe d'un départ imminent dans les 48 heures de Saad Hariri et de sa famille pour Paris. On peut qualifier cette prochaine visite d'exfiltration après deux semaines inouïes qui ont sidéré, stupéfait les Libanais, une démission surprise contre toute attente. d'émissions données à la télévision depuis l'Arabie Saoudite avec des propos très peu diplomatiques, une diatribe belliqueuse anti-Iran inhabituelle dans la bouche du Premier ministre démissionnaire. Ce qui a fait dire aux observateurs que cette démission lui avait été dictée par Riyad. Une démission évidemment rejetée par Michel Aoun car non conforme, le président libanais attend toujours son retour pour y donner suite et permettre une clarification. Mais l'Arabie Saoudite considère que la vie de Saad Hariri au Liban est menacé et l'empêche donc de retourner à Beyrouth. Ce qui a poussé Michel Aoun à parler d'enlèvement et de prise d'otages, une escalade verbale qui a provoqué un regain de tension dans la région. C'est là que l'action de la France a pu s'inscrire avec Emmanuel Macron à la manœuvre. La stratégie du président français consiste à parler à tout le monde et surtout à ménager toutes les parties, ce qui a donc permis de sortir temporairement de cette crise. La France a parfaitement joué le rôle d'arbitre pour mieux secourir l'ami Hariri.
L'ami Hariri, on ne sait pas s'il va rentrer donc à Beyrouth, on ne sait pas s'il veut éventuellement conserver son rôle de Premier ministre. En tout cas, Omar, il reste quand même cette question de savoir en quoi cet épisode, qui est quand même un peu rocambolesque, change quelque chose à la situation régionale.
Oui, Saad Hariri a dit lors d'un entretien télévisé dimanche soir qu'il pourrait revenir sur sa décision si le Hezbollah libanais, allié de l'Iran et donc ennemi de l'Arabie Saoudite, mettait fin à ses interventions militaires dans la région. Le Hezbollah qui fait partie de son gouvernement, car cette crise a été déclenchée par l'Arabie Saoudite justement pour contrer l'influence de plus en plus grande du Hezbollah. Influence en Syrie, où il combat aux côtés du régime de Bachar el-Assad, au Liban, où il fait partie désormais partie intégrante du pays du Cèdre, et au Yémen, où la présence de la milice chiite est un véritable casus belli pour Riyad. Car l'Arabie Saoudite considère que le Yémen est son arrière-cour, sa chasse gardée. Durant l'interview télévisée de dimanche soir, première prise de parole publique de Saad Hariri depuis sa démission le 4 novembre, il a mentionné à plusieurs reprises l'intervention militaire du Hezbollah libanais au Yémen contre l'Arabie Saoudite, mais il n'a jamais fait référence à la guerre que mène la milice chiite en Syrie, ce qui indique que le véritable problème des autorités saoudiennes est l'enlisement de Riyad dans ce conflit au Yémen. C'est donc là que résiderait la clé d'un apaisement avec les Saoudiens.
Omar Ouaman, merci beaucoup. Vous étiez en direct de Beyrouth et où effectivement il y a une conférence de presse à Riyad ce matin avec son homologue saoudien, le ministre français Jean-Yves Le Drian, se déclare préoccupé comme Riyad des interventions de l'Iran dans les crises régionales et de cette tentation hégémonique, je cite, je pense, ajoute M. Le Drian, à son programme balistique. Encore des questions autour du génocide rwandais. Est-ce que l'on va vers un non-lieu pour l'opération turquoise menée par la France? La justice n'a en tout cas pas jugé nécessaire d'entendre le chef d'état-major des armées dans cette enquête sur les possibles responsabilités de l'armée française lors du génocide en 1994. Selon les parties civiles qui accusent, on le sait, la force turquoise d'avoir sciemment abandonné aux génocidaires Hutus des centaines de Tutsis, c'était du 27 au 30 juin 1994, selon les parties civiles, donc cette décision pourrait ouvrir la voie à un non-lieu. Camille Manière, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que le non-lieu, c'est bien le chemin qu'on est en train de prendre dans cette affaire?
Eh ben, c'est clairement la crainte des associations et des parties civiles. Et c'est vrai que l'instruction qui porte sur une éventuelle complicité de la France dans le génocide rwandais se retrouve escamotée, sabordée par la justice elle-même avec cette décision donc de ne pas aller au fond du problème, de ne pas faire auditionner les plus hauts responsables de la hiérarchie militaire de l'époque. En l'occurrence, le chef d'état-major, le général Langsad, et son adjoint en charge des opérations, le général Germanos. L'instruction, pourtant, a déjà permis d'établir que les deux hommes avaient été alertés dès le 27 juin 1994 par des soldats français de la force turquoise qui avaient signalé sur la colline de Bisesero dans l'ouest du Rwanda des Tutsis encerclés par les génocidaires des milices interahamwées. Le massacre s'est déroulé à quelques kilomètres de là où stationnaient les militaires et ces derniers ne sont pas intervenus avant le 30 juin. Trois jours donc et des centaines de morts évitable plus tard. Les magistrats pourtant refusent de faire auditionner les deux généraux. Ils estiment que l'organigramme de la force turquoise donnait suffisamment d'autonomie aux commandants sur le terrain pour ne pas qu'on aille chercher les responsabilités plus haut dans la chaîne de commandement. Une justification battue en brèche par les connaisseurs du dossier qui explique que la force turquoise n'a été normalisée et donc n'a pris son autonomie d'intervention par rapport à Paris que le 30 juin 1994. Avant cela, les commandants sur le terrain prenaient bien tous leurs ordres depuis Paris et leur l'ordre d'empêcher le massacre de Bicêtre n'est pas intervenu le 27 juin ni les deux jours suivants. Finalement, le haut commandement militaire étant sorti de l'instruction, celle-ci n'a plus vraiment de sens, il faut bien le dire. C'est pour cela que les parties civiles craignent à présent le non-lieu. Pour elles, ça confirme en tout cas le fait que 23 ans après le génocide au Rwanda, le sujet des responsabilités françaises en très haut lieu, militaire mais aussi politique, reste éminemment tabou.
Camille Magnard, merci.
Au chapitre de la libération de la parole en cours, ce sondage, Louis Harris, pour l'association Enfants Bleus, Antoine.
Oui, un Français sur quatre déclare avoir été victime de maltraitance physique ou psychologique durant son enfance. Un Français sur quatre. Il y a 3 ans, 14% des personnes interrogées déclaraient avoir été victimes de maltraitance durant leur enfance. Il y en a 22% cette fois-ci. Et pour le secrétaire général de l'association, donc l'Enfant Bleu, on assiste bien à une libération de la parole aussi dans ce domaine de la violence faites aux enfants. Bonjour Valentine Joubin.
Bonjour à tous.
Donc on ne parle pas ici, il faut bien le dire, de maltraitance légère, d'une petite tape, d'une gifle, mais bien de maltraitance qu'on peut considérer comme grave.
Oui, cette maltraitance grave, c'est quand il y a une volonté claire de faire mal, de blesser et de façon répétée. Quand l'enfant sait pertinemment qu'en rentrant de l'école, il va se faire insulter ou se faire frapper. Une situation décrite, vous l'avez dit, par un quart des personnes interrogées. Et ce qui est encore plus frappant dans cette étude, c'est que les violences les plus fréquentes sont de nature sexuelle. 16% des cas, deux fois plus que les maltraitances psychologiques, quand les coups ne représentent que 5%. Ces victimes de violences sexuelles sont en très grande majorité des femmes, 2/3 contre 1/3 d'hommes. Et dans la plupart des cas, l'agression, le viol a lieu au sein même de la famille. Autre enseignement de ce sondage, la persistance du tabou. 80% des victimes n'ont pas osé en parler au moment des faits. Et celles qui l'ont fait n'ont généralement pas trouvé d'aide.
Le secrétaire général de l'association L'Enfant Bleu parle de libération de la parole. Les gens osent aborder ces sujets qui étaient considérés comme tabous auparavant. Effectivement, d'après ce qu'on en sait maintenant, cela peut tout à fait se relier au phénomène global dont on parle depuis plusieurs semaines.
Oui, vous le disiez dans votre introduction, Antoine, lors de la dernière enquête de ce type, il y a 3 ans, 14% des personnes interrogées disaient avoir été victimes de maltraitance grave durant leur enfance. Elles sont aujourd'hui 22%. Le contexte de l'affaire Weinstein et tout le mouvement de libération de la parole féminine qui a suivi a pu pousser les femmes interrogées à se livrer davantage. C'est en tout cas l'analyse que fait Michel Martzloff, secrétaire général de l'association L'Oiseau Bleu, association qui a commandé l'enquête. Mais ce sondage pointe aussi un paradoxe en la matière. Si les personnes interrogées considèrent à 97% que la maltraitance des enfants est un fléau prioritaire, elles avouent ne pas savoir quoi faire lorsqu'elles se retrouvent aujourd'hui dans la peau du témoin. 1/3 d'entre elles n'ont ainsi prévenu personne parce qu'elles n'avaient pas de preuves, parce qu'elles avaient peur de se tromper. Elles ne connaissent visiblement pas le 119, ce numéro gratuit ouvert 24 heures sur 24 pour les victimes et toutes les personnes qui ont des soupçons de maltraitance. Une enquête départementale est ensuite diligentée pour vérifier si les faits sont avérés. On peut aussi faire un signalement à la justice, au tribunal de grande instance le plus proche.
Valentine Joubin, merci. Cécile de Carvaz-Douay va revenir sur ce sujet dans la matinale de France Culture. Lundi prochain, le concours des lycéens, à l'instant attribué à Alice Zéniter, donc lauréate de cette 30e édition pour son roman « L'art de perdre ». Nous en restons au grand classique du genre au niveau de la météo, puisqu'il y aura des nuages au nord, du soleil au sud, des températures qui iront de 6 à 19 degrés. L'édition qui s'achève a été réalisée par Yacine Bouzard.